Contexte des révolutions arabes, on en vient maintenant à cette polémique. La France a-t-elle permis au colonel Kadhafi d'identifier et donc d'interpeller des opposants au régime ?
Eagle, c'est le nom du logiciel qui fait polémique. Il est français, mais surtout il a servi à espionner des opposants libyens.
Radio Reflet, c'est parti.
C'est une société qui a une spécialité que nous appelons Network Intelligence, c'est-à-dire qu'en fait on extrait l'information du réseau IP pour alimenter les applications.
Des individus se revendiquant membres d'Anonymous ont accordé des interviews aux médias, faisant croire au public qu'ils étaient susceptibles de donner de la voix à notre collectif. Ils s'arrogent le droit moral et physique de parler au nom d'Anonymous, alors qu'ils ne connaissent même pas, en général, le fonctionnement, les détails techniques, l'histoire, ainsi que les principes fondateurs.
Salut Drafeur, nous revoici sur Radio Reflet pour notre 6e émission.
Eh ben ouais, salut qui tais-toi, cette 6e émission pour laquelle nous avons un invité de poids pour parler d'un thème, lui aussi très lourd de conséquences. Un thème qui s'invite d'ailleurs de plus en plus dans notre quotidien. Je veux parler de la délinquance en col blanc. Mais avant de commencer, un peu de teasing. Dans cette émission, nous aurons comme d'habitude la discussion sur le grill avec notre invité dont on va parler, puis l'interview imaginaire, la petite revue de presse express, je crois qu'on n'aura pas le temps, mais il y aura une chronique en toc, et évidemment de la musique libre de droit qu'Epi Mahé, notre programmatrice et technicienne, nous a patiemment choisie. Mais revenons à cette histoire de banditisme financier. Qui est donc cet invité, cher qui tais-toi ?
Alors, c'est un invité qui est spécialiste des drones, puisque aujourd'hui, on va parler du sujet qui inquiète toute la presse. Non, je rigole, c'est Denis Robert qui est notre invité, l'homme par qui le scandale est arrivé, si je puis me permettre. Étonnamment, il a été vilipendé par la presse, par les banquiers, a manqué de soutien politique, on pouvait s'en douter, il est celui qui a dévoilé la boîte noire.
Mais permets-moi de te couper, tu veux pas dire que là, avec nous, on a Denis Robert, le Denis Robert, le type qui a fait, au final, que Sarkozy voulait pendre de Villepin un croc de boucher, le journaliste écrivain aux 30 procès ?
Lui-même, en personne, mais...
60.
Ah, j'avais mis 60, et en fait, on m'a corrigé, donc voilà, c'était 60. Bien 60.
Mais non, mais c'est parce qu'il y a eu un papier horrible sur moi écrit dans le Canard Enchaîné de la semaine dernière, un papier qui est truffé d'erreurs, c'est surréaliste cet article qui dit 30, mais enfin, en fait il y a 63 procès.
Ah voilà, parce que moi j'avais 63, je crois que c'est même Wikipédia qui donnait 63.
Passons.
Donc Denis Robert a dévoilé l'existence de comptes cachés et d'effacement de transactions au sein de Clearstream, et c'est ça l'affaire Clearstream. L'autre affaire, la fausse, qui a valu cette tirade de Sarkozy, concerne une histoire de modification frauduleuse de fichiers issus de Clearstream. En résumé, Imad Laoud, un employé mythomane de ADS, décide d'inclure des noms de personnalités dans un fichier de Clearstream et de donner ces fichiers modifiés à la presse. Scandale, Sarkozy a été ajouté, c'est le volet politique sans grand intérêt.
Ok, donc... ouais, merci pour la précision, parce qu'effectivement, on peut confondre un peu les deux. Mais diantre, quand même, on a Denis Robert avec nous, quoi, sur Radio Reflet, et d'ailleurs, on va lui souhaiter la bienvenue. Bonjour, Denis.
Bonjour, Denis.
Bonjour.
Donc Denis est celui qui a mis à jour la boîte noire. Alors je vous vois venir, vous allez me demander qu'est-ce que c'est que cette boîte noire ?
Ah oui, tout le monde se demande un peu, ouais.
Alors c'est Clearstream, l'un des outils qui permet aux banques de tenir une comptabilité précise, de notariser leurs transactions. Alors je vous le tourne autrement, si les États voulaient par exemple suivre l'argent sale, retrouver des fraudeurs fiscaux, il leur suffirait d'aller fouiller dans cette boîte noire. Mais visiblement, c'est pas tout à fait ce qui se passe, et celui qui révèle l'existence de cette boîte noire en 2001 va s'attirer les foudres d'à peu près tout le monde.
Là, tu parles toujours de Denis Robert, notre invité.
Je peux intervenir ?
Non, juste après.
Non, tu peux pas.
Celui qui lance l'affaire Clearstream en 2001.
Oui.
Ouais. Cette tout chambre de compensation, comme on l'appelle, basée au Luxembourg.
Exactement.
D'accord. Bon, bah, le mieux, c'est de demander, effectivement, puisqu'il voulait intervenir, et c'est quand même la moindre des choses, c'est notre invité. On va demander au principal intéressé de nous parler plus avant de cette fameuse histoire. Denis, quelle était ta précision ?
Non, mais c'était simplement sur l'histoire de la boîte noire. Je me suis rappelé que j'avais appelé mon second livre, La boîte noire. C'était pour plusieurs raisons, mais une des raisons essentielles, c'est que, comme quand un avion se crash, On retrouve les boîtes noires qui permettent de reconstituer les raisons du ouais. crash. Ouais. Et là, quand l'idée était que quand on a un crash financier ou quand on a un scandale ou quand on a un virement, il existe justement une boîte noire, enfin qui n'a pas la forme ni la consistance de celle des avions, mais qui est une centrale informatique ouais. où on peut reconstituer des itinéraires financiers. Ouais. On peut remonter des filières assez facilement. Et c'est une vérité qui est pour l'instant, malgré le film, malgré la bande dessinée, etc., qui n'est pas audible. C'est comme on n'entendait pas. Ouais. C'est comme si c'est tellement énorme, encore aujourd'hui, de dire ça, que les gens se disent que ce n'est pas possible. Donc voilà. Et j'ai appelé le livre La boîte noire, la signification, c'était ça.
Ouais. Pour débuter, moi, j'aurais voulu quand même essayer de comprendre, pour les auditeurs, pour tout le monde, par rapport à Clearstream, comment tu t'es lancé là-dedans, en fait, et pourquoi, au départ.
Je me suis lancé là-dedans parce que je suis rentré par effraction dans cette histoire. Ça arrive à un moment, en 99, où je termine un cycle assez long. J'ai passé beaucoup de temps en Libération à faire des enquêtes. J'ai lancé, j'ai écrit un livre qui s'appelle « Pendant les affaires continuent » en 96. Puis je lance l'appel de Genève pour la création d'un espace ouais. judiciaire européen. Donc je suis vraiment sur le front en permanence. Je quitte le journalisme installé, un salaire confortable, etc., pour travailler un peu en solo avec un éditeur. Enfin, et donc je mène des combats qui sont des combats.
Parce que tu penses que au niveau la finance internationale ou le bancaire, enfin un poids,
a pris le pas. Et instille des comment dire, une maladie dans les démocraties. Enfin, il y a des voleurs de démocratie, armés de modems puissants qui arrivent à tout ça. Et ça, dans les pages d'un journal, même comme Libération qui était un bon journal. Ça passe plus, j'y arrive pas. J'ai des ennemis, des types qui disent oui, mais ce type, et il raconte, enfin, c'est pas possible. Enfin, tout de suite, on est taxé de conspirationnisme, ce genre de conneries.
Ah oui, on connaît.
Et donc je voilà, mais j'arrive à fin 98-99 en disant j'en ai marre. J'arrête, j'écris des romans d'amour. Parce qu'il se trouve que j'écris beaucoup de romans et que mes romans se marchent bien. Quoi.
Ouais, enfin, t'es romancier aussi.
Je vite ça. J'écris un roman qui s'appelle Le Bonheur, qui est un best-seller traduit dans 20 pays. Donc j'ai plutôt. Parce qu'on me présente tout le temps comme un journaliste d'investigation. Je veux bien qu'on. Avant, je me battais contre ces étiquettes. Maintenant, je me bats plus. On me présente comme on veut. Mais je veux dire, avant Clearstream, voilà, j'étais à un moment donné, pour vous répondre, à un moment où je me disais, tout bien, c'est foutu. J'en ai marre de me battre contre les paradis fiscaux. J'en ai marre d'écrire tout le temps ces articles, etc. Je suis tout le temps dans cette espèce d'énergie de combat. Je vais faire une pause. Je vais écrire un roman d'amour, un autre. Je vais profiter, voyager.
Et ça, c'est vers 98.
Ouais, c'est 98, 99. Et là, je rencontre...
pas de bol.
Un type, voilà, c'est ça. C'est à peu près ça.
C'est au moment
non, mais
où...
c'est vraiment que j'ai... C'est vraiment que j'avais pas super envie, quoi. Et puis je rencontre Ernest Backus, un gros bonhomme qui ressemble à un Karl Marx, un peu avec des bretelles rouges, dans une arrière-salle dans la banlieue de Luxembourg. Il m'est présenté par le fils d'un député luxembourgeois qui a pris contact avec moi, etc. Et Backus, c'est ce que raconte le film, d'ailleurs, et la bande dessinée. Enfin, vous l'avez lu, la BD, c'est vraiment ça. C'est-à-dire, le type, je ressors du premier rendez-vous, je me dis, ce type, il est complètement mytho. Tu parlais de mythomane tout à l'heure, mais là, on est devant un monstre de mythomanie où c'est l'histoire la plus dingue que j'ai jamais entendue. Le mot Clearstream n'était pas utilisé, parce qu'à l'époque, on parlait de Cedel encore, qui était l'ancêtre de Clearstream, enfin, en termes de nom, parce que Cedel va s'appeler Clearstream en 2000. Mais surtout, donc je suis un peu long dans ma réponse,
mais il n'y a pas de problème.
Surtout, je comprends à son contact que finalement, la représentation sur laquelle je fonctionnais, qui était à partir du moment où une transaction financière passe une frontière ou rentre vers les paradis fiscaux, c'est foutu. Il n'y a pas de traçabilité, c'est une espèce de bordel où personne s'y retrouve. D'ailleurs, je vous signale qu'à l'époque, tout le monde pense ça, c'est-à-dire les juges d'instruction, les enquêteurs financiers. Jamais personne n'a vraiment utilisé ou compris l'importance des chambres de compensation. Je comprends à son contact que finalement, il y a une traçabilité. C'est que quand une transaction financière devient internationale, qu'elle passe les frontières, elle est répertoriée quelque part. Il existe des notaires, comme des notaires qui enregistrent toutes ces transactions. Et je pars de là et je me dis, c'est quand même assez génial.
Et ce type, c'est qui exactement?
Becker, c'était le numéro... il a été numéro trois ou cinq de Cedel, qui était quand même... Cedel, au départ, c'est une coopérative interbancaire. Il y a 97 banques qui l'ont constituée. Et lui est le responsable du service clientèle. C'est lui qui organise et qui vend la technologie et la technicité aux banquiers, normalement, mais aussi aux clients, infrabancaire, c'est-à-dire qu'il n'y a pas que des banquiers justement qui vont utiliser Clearstream, c'est qu'il crée une sécurité informatique, une rapidité des échanges financiers, etc. Et donc il est au contact, il voyage énormément et c'est un des boss de la boîte. Au-dessus de lui, il y a un directeur général qui s'appelle Gérard Soisson, puis au-dessus de lui, il y a le patron qui s'appelle Galaska.
Mais pourquoi il a envie de balancer ce type-là ?
Pourquoi
il te parle de ça ?
Parce qu'il sait au début, il me raconte les choses par bribes, il ne sait pas quelqu'un qui veut témoigner.
D'accord.
C'est-à-dire que c'est quelqu'un que j'accouche au fil des rencontres et des ans, ou des mois plutôt, et je me rends compte que ce qu'il a, et son témoignage est incroyable, quoi. Et au bout d'une année, il me file les premiers documents, et là je tombe de mon étage, parce que je me rends compte que c'est une sorte de graal journalistique, puisque on arrive à une sorte de liste rouge de la finance. J'avais utilisé comme métaphore l'annuaire téléphonique, c'est-à-dire que quand Clearstream, Backus me donne un document qui prouve que ces types ont une volonté de dissimuler et qu'ils fabriquent de la dissimulation avec un système de compte non publié.
Quel type de document c'est ?
Les documents, c'est, si vous voulez, lui, il a gardé, parce qu'il a un contact avec le service, comme il est au service clientèle, il a l'adresse de toutes les personnes qui ont des comptes chez Clearstream. D'accord. Il a l'adresse postale de toutes ces personnes. Alors, j'ai plus les chiffres en tête, mais je crois que ça représentait donc en 96, 8 000 ou 9 000 adresses postales. Et puis quand vous comparez ces adresses postales avec le listing que Clearstream sortait tous les mois, parce que tous les mois, si vous voulez, le nombre de clients de Clearstream est changé, puisqu'il gagnait tout le temps des clients. Et si vous voulez, Clearstream organise les marchés financiers. Donc vous avez des acheteurs et des vendeurs qui rentrent dans le système. Donc il y a une nécessité d'apparaître qu'on achète ou qu'on vende des devises.
Pour connaître les autres.
Ouais. C'est comme une coopérative, ça marche comme ça. Et quand vous voyez que sur 8 ou 9 000, il y en a 3 ou 4 000 qui n'apparaissent jamais, et qui ont des comptes, comme par hasard, dans des paradis fiscaux, qui ont des noms étranges, qui sont des multinationales, la caisse noire de Elf était là-bas, Rive Union, je ne vais pas tous les énumérer, mais des banques russes mafieuses comme la Menatep, des banques colombiennes, comme par hasard, c'est des boîtes qui n'ont pas de comptes publiés, etc. Donc il y a toute une série de comptes non publiés. Et là, on a la preuve. Puisqu'on a les documents, on a tout ça. Et donc, à partir du moment où il me donne ces documents, j'échafaude et je commence mon enquête. C'est-à-dire, je pars de ce qu'il me dit. Mais lui a quitté la firme en 80... Il est viré en 85. Donc, quand je le rencontre, on est en 99. Mais les documents qu'il a sont beaucoup plus récents, puisqu'ils datent de 95-96. Donc, ils ont 2 ou 3 ans, les documents. Donc, et lui a gardé des contacts à l'intérieur, puisque c'est lui qui a embauché les gens. Donc, il a gardé plein de contacts à l'intérieur. Donc, j'arrive assez facilement à prendre contact avec des gens de l'intérieur. Et l'enquête, mes 2 années d'enquête, que je vais mener avec Pascal Laurent, mes bons copains qui est réalisateur, et avec Laurent Beccaria, parce qu'on dit tout le temps que je suis seul et tout. J'étais pas seul. Il y avait mon éditeur, et il y avait lui. Puis, il y avait mon copain avocat, Joël Lagrange, avec qui j'ai fait tout le travail. Et donc voilà, et ça a été une enquête, parce que la presse a dit, j'ai eu des papiers, comme vous le savez, assez dégueulasses sur tout ça, et la critique que j'ai trouvée la plus incroyable, c'est celle qui dit que j'accusais sans preuve. Une enquête en France, on prend sur les 50 dernières années, une enquête qui peut être sérieuse, avec des tas de documents, etc., c'est la mienne. Donc je le dis aujourd'hui, pour moi il y a prescription, mais c'est une putain d'enquête sérieuse. J'ai rencontré plus de 60 personnes, dont 27 ont été filmés dans mes témoins, c'est quand même pas rien. Et j'ai des tonnes de documents. C'est-à-dire que là, je vous ai donné un exemple avec la première liste, mais des listings comme ça, je vais en avoir 5 ou 6, quoi, jusqu'au fameux listing qui va être falsifié, qui va être le plus très récent.
Ok, donc en fait, quand on regarde l'évolution, tu avais décidé de te retirer un petit peu de cette partie enquête, etc. Et finalement, tu repars à fond. Et quand je le regarde avec ces années de recul, ça ressemble un peu à l'homme révolté de Camus, le mythe de Sisyphe, un peu, tu vois, le type qui.
Ça, ou alors les personnages de Clint Eastwood, tu sais, le vieux flic qu'on vient chercher, je suis pas très vieux, mais ouais. Le mec qui dit non, putain, j'ai pas envie d'arrêter.
C'est impitoyable.
Un peu, ouais.
Et donc, mais au début, quand tu obtiens l'histoire, tu te dis quoi? Est-ce que tu as une vague idée du volume d'emmerdes qui vont te tomber sur le dos? Est-ce que tu sais que en face tu as des gens extrêmement puissants et que tu vas avoir tout le monde de la finance sur le dos?
Donc je sais que ça va être compliqué, ça je m'en doute, mais surtout j'ai préparé mon coup avec Joël Lagrange, mon pote avocat. Et Joël meurt le 28 février 2001. Pour moi, c'est un drame terrible, parce que c'était pas loin d'être mon meilleur ami. C'est le type le plus génial que j'ai jamais rencontré. C'est un avocat en or avec qui j'ai voyagé énormément. Et on a prévu tout ça. Et qu'en plus, il connaît bien le Luxembourg et tout. Le livre sort le 1er mars et le 27 février, Joël, voilà, il a un accident cardiaque et tout. Donc, je me retrouve un peu seul. Donc, ça a été assez terrible parce que d'une part, j'étais dans le chagrin le plus total. Enfin, c'est comme si on me coupait un bras, quoi. Et je fais toute la promo du truc, le livre sort, avec ce cadavre au-dessus de ma tête. Et ça a été très difficile après, parce que ça, je l'ai peu dit, puisque bon, j'avais pas envie de. Puis en plus, j'avais pas envie d'en parler. Mais l'une de mes difficultés, ça a été ça. C'est-à-dire que j'avais prévu de me battre avec un. C'était comme un grand frère pour moi, quelqu'un qui connaissait.
Aussi,
il était avocat, c'était un super pénaliste, il était dans plein de dossiers. Et après, je me retrouve seul, quoi, avec mes potes et tout. Mais j'ai eu du mal après à. Donc, juridiquement, je savais que j'allais avoir des procès. Mais après, si on regarde dans la mécanique des procès, c'est-à-dire que je les ai aussi beaucoup provoqué, mais en tout cas, je m'attendais à avoir des tracas. Je savais que je m'attaquais à du lourd, qu'ils allaient pas être contents, même à du très lourd, que j'allais avoir sur le dos des banquiers, etc. Pas une seconde, je pensais que j'aurais la presse et le monde.
Ouais, on va y venir d'ailleurs, parce que là, sur Clearstream en tant que tel, bon, ils se sont déchaînés, c'est clair. Il y a eu 10 ans de procédure judiciaire, donc on parlait de 63 procès, plaintes, enfin qui sont. Voilà,
c'est-à-dire qu'il y a eu. C'est pour ça que le papier du canard est lamentable et dégueulasse, mais il y a eu les plaintes de Clearstream, mais il y a aussi des plaintes de la Banque Générale de Luxembourg, et il y a eu des plaintes. Un grand nombre de plaintes de la Menatep, qui est une banque russe, la banque de Khodorkovsky, la banque qui m'attaquait, c'était la Menatep avait fait faillite, et c'est la Menatep Gibraltar, de Gibraltar qui m'attaquait. Donc j'ai reçu. Et quand on vous attaque dans 5 pays, le Canada, la Suisse, la Belgique, le Luxembourg, la France, quand vous avez fait 2 livres et 2 documentaires, vous voyez, ça enfle tout de suite le nombre de procédures contre vous, quoi.
Puis quand difficile à suivre.
Voilà. Donc, bon, enfin bref, je vais pas revenir sur tout ça, mais il n'y avait pas Clearstream, donc je les avais tous sur le dos, quoi.
Non, mais justement, il y a aussi des collègues, entre guillemets, des gens, en tout cas, du métier de journaliste, qui t'ont pourri de manière un peu incroyable. On a, justement, bon, on voulait juste écouter la... quelqu'un voilà, d'un peu particulier, Philippe Val, l'ancien patron de Charlie Hebdo. Mais c'est juste parce que c'est pour les auditeurs, pour se rendre compte un peu d'où ça peut aller, comment la parole comme ça peut se déchaîner bizarrement. Et toi, voilà, je voulais juste avoir ta réaction, même si c'est pas vraiment très sympa, mais t'es un peu retiré. Donc c'était au Salon du Livre en 2009, on écoute.
Il s'appelle Denis Robert, fait partie de ces journalistes d'extrême gauche, disons, qui est sûr de temps en temps de trouver la source du mal absolu. La source du mal absolu, c'est Clearstream. Cette société de bancaires, cet organisme de compensation, comme on appelle ça, luxembourgeois. Bien, on passe là-dessus, on ne va pas raconter l'affaire Clearstream, c'est là pour très longtemps. Mais il se trouve que ce brave Denis Robert, bien qu'il soit possible que Clearstream ne soit pas une société blanc-bleu, mais Denis Robert a commencé à publier des textes et des documents sur Clearstream, des documents qui ont été convaincus de faux et des textes qui ont été jugés diffamatoires vis-à-vis non seulement de Clearstream mais des 1500 salariés qui y travaillent. Et Denis Robert a été condamné un nombre de fois incalculable pour ce qu'il a écrit sur Clearstream.
On touche donc là aux limites de la liberté d'expression, parce que moi je dis que c'est des limites et qu'il faut accepter, à savoir qu'on ne peut pas publier des mensonges, on ne peut pas publier n'importe quoi, et que dans un pays où il y a liberté d'expression, il y a quand même quelque chose qui est un cadre de cette liberté d'expression.
Absolument, et même si Clearstream a un rôle que l'on juge antipathique, voire louche, supposé louche, on ne peut pas affirmer que ça soit une mafia mondiale qui réunit des gens en détournant de l'argent public de différents pays et qui arrose les comptes privés de personnalités politiques.
Alors, bon. on peut pas. Alors, Philippe Valls, on peut pas. C'est pas possible. C'est très étrange. Il est d'une violence.
Il est Charlie.
Et il est très, très Charlie. Hein. Il est très, très, très Charlie, le père. Non,
mais surtout, il est très con. Il est pas.
Ça, c'est clair. C'est étonnant, quand même.
Non, mais il est pas intéressant. Enfin, il est. Au début, franchement, il n'y a rien à dire. C'est tellement crétin. C'est tellement bête ce qu'il dit que. Voilà, il est.
Mais pourquoi il est autant, touché? Qu'est-ce qu'il touche là-dedans?
Parce que c'est parce que l'avocat de Charlie.
Voilà, l'avocat de Charlie Hebdo, c'est l'avocat de l'extrême. Et donc, il est complètement. Il connaît rien, il comprend rien à tout ça. Il a son copain, son frère, comme il dit, Malka, qui est l'avocat de Charlie Hebdo et de Clearstream, qu'on voit beaucoup en ce moment. Donc, Malka lui a bourré le mou en lui disant: Malka avait un problème avec moi, c'est que j'ai une réputation irréprochable. J'ai fait l'appel de neige, j'ai sorti plein de papiers dans l'eBay, etc. Et donc lui, au début, voulait pas que ça sache qu'il défendait Clearstream, donc il prenait le pognon, les honoraires pour faire le truc, mais il était caché sous un faux nez et tout ça. En plus, je révèle, moi, dans la boîte noire, que c'est lui l'avocat de Clearstream. À ce moment-là, il a un problème. Il faut qu'il fabrique, pour pouvoir faire tenir son dossier, il faut qu'il fabrique un personnage de fiction qui s'appelle Denis Robert, qui devient un ennemi de la presse. Ouais. Et donc, il commence à me salir. Et au début, ça me fait marrer, parce que je trouve ça tellement délirant, tout ce qu'il raconte sur moi. Mais à force de le dire, puis avec son réseau, parce que ce Malka, il a un réseau quand même, il défend la moitié de la place parisienne à Paris, il est l'avocat de plein de canards, et ben il va leur dire: méfiez-vous de ce mec, enfin des conneries d'extrême gauche. Puis après, j'ai eu droit à tout, moi j'ai eu droit à un procès en toxicomanie, j'ai eu droit à des procès en conspirationnisme.
C'est costaud quand même.
Là, je suis devenu l'ami de Dieudonné, je suis devenu l'ami de Thierry Messan, je suis devenu l'ami de je sais pas quoi.
Faut pas s'attaquer aux bancaires.
Bacchus, alors par exemple, je vous donne un exemple sur Bacchus. Bacchus est un mec très diplômé, qui est un diplôme d'expert comptable. Et qui est très fort en expert comptable, c'est pas rien, tu vois, c'est des études et tout. Et au début, quand je le rencontre, il est l'expert comptable de l'association des bouchers-charcutiers luxembourgeois. Dans tous les procès que ce Malka nous fait, il dit, et Denis Robert va chercher un boucher, un charcutier luxembourgeois, voilà. Et c'est que des trucs comme ça. Et vous, au début, vous dites: non, il est pas boucher-charcutier, il est expert comptable, il était. Puis il y a un moment où le mec, comme il est dans une espèce de mécanique comme ça où il faut tout dénigrer, il faut mentir en permanence. Moi je Et ça infuse dans la presse, et puis on se retrouve.
C'est sur les journalistes, peut-être qu'il y a des questions à se poser.
Oui, alors moi, justement, c'est cette question qui me taraude, puisque je viens de la presse aussi. Hein, mais pourquoi, d'après toi, Denis, tous les journalistes, tous ces journalistes ont déployé autant d'énergie à faire croire à l'époque que cette histoire Clearstream était compliquée? Alors moi, ce mot ressort tout le temps. Ça me frappe encore aujourd'hui quand je vois la présentation du film L'Enquête là, qui sort et qui raconte ton histoire. Et cette présentation, elle tourne autour du tout le temps. Enfin, les journalistes disent: enfin, l'affaire Clearstream expliquée de façon simple. Alors moi, ma question, c'est: est-ce qu'il leur manquait des neurones jusque-là pour la comprendre? Parce que tu as quand même fait deux bouquins qui sont des pavés, hein, au bon sens du terme. C'est long, c'est documenté. Franchement, qu'est-ce qu'ils avaient comme problème pour pas comprendre, pour dire que c'était compliqué?
D'une manière plus générale, moi je suis pas un journaliste financier, mais on se rend compte que c'est quand vous touchez à cet univers-là, on va dire le trading, la haute finance, etc. Ils parlent en franglais.
Ils ont un jargon.
Il faut pas avoir peur de. C'est ce que j'ai fait, de dire, quitte à passer pour une bille, mais je comprends pas. Expliquez-moi, etc. C'est comme ça que j'ai fait. Et ça arrange bien ces gens-là d'utiliser du jargon et de faire croire que c'est compliqué, alors que ça ne l'est pas. Dans l'affaire Clearstream, c'est pas compliqué du tout. C'est pas compliqué.
Non, c'est pas compliqué.
Oui. Après, ce qui est devenu compliqué, c'est la deuxième affaire. La manipulation, on était largué au début, on savait pas d'où les coups venaient, etc. Mais bon, voilà. Et là, c'est vrai que le film, ce qui a compliqué l'histoire, ce sont les journalistes qui n'ont. C'est comme une sorte de méthode Coué, vous savez, quand vous dites une histoire complexe, la banque Clearstream, alors que c'est pas une banque, c'est une banque banques, enfin, etc., etc. Je vais pas énumérer tout ça, mais il y avait une. Et après, les médias, j'ai vu des trucs très étonnants pendant avec la sortie du film. J'ai vu des politiques me dire: ah, mais j'ai enfin compris ce que c'était Clearstream. Des députés socialistes en particulier qui étaient révoltés parce que le film suscite de l'effarement, quoi. Parce que les gens disent: mais c'est pas possible que ça existe, que vous ayez vécu ça, etc. Et on n'avait pas compris, etc. Bah ouais, vous n'avez pas compris parce que les journalistes ont. Mais là, j'ai du mal à. Parce que j'ai des tas de copains journalistes, mais mais ils ont, sur ces histoires-là, ils font très très mal leur boulot. Vous parlez des drones tout à l'heure. C'est vrai qu'on nous bassine avec les drones depuis deux jours, c'est insupportable. Oui, voilà, alors qu'il y a tellement d'autres voilà. sujets intéressants.
On va faire une petite pause musicale et on revient tout de suite.
Like a bike, zero fucks given, I move like Mike. If the body right, I just might start up any drama and I'm on the next flight. Live today, forget about the next day. Let the music talk, go ahead and press play. Go, 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 go. It's an earworm. Go, 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 go. It's an earworm. Go, 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 go. It's an earworm. Go, go, earworm. Go, go. Earworm.
A song, I'm back again. Cause I wanna track again. Let the party begin. Sure to turn around, bring it back again. Whoa, you ain't gotta be scared. Leggings and the meanest skirt. She not an introvert, she here to get loose, get drunk and flirt. Ha, holler with your ball in the back. For the back attack, getting those on your back. Got a back to back and it's all full of straps. We going back to back all night till we rank out. Passion. I'm pretty nice. Let a track bang on your eardrum. Oh no, you can't stop it. Earworm.
Go, 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 go. It's an earworm. Go, 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 go. It's an earworm. Go, 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 go. It's an earworm. Go, go, earworm. Go, go, earworm.
Écoutez Earworm de JF et A-Song, et nous sommes toujours avec notre invité, le journaliste d'investigation, Denis Robert.
What an accent, qui tais-toi.
Yes, I can. Alors Denis, venons-en à aujourd'hui, parce qu'il y a en ce moment de nombreuses choses qui sortent, les LuxLeaks, les SwissLeaks, et pourtant rien n'a l'air réglé. La délinquance en col blanc n'a pas l'air franchement affaiblie ou mise au pas. Qu'est-ce que t'en penses? Comment tu vois ça?
Parce
qu'effectivement, si on remonte à l'appel de Genève, etc., il y a quand même eu des gros mouvements. Et...
Là, un certain nombre d'amis ont écrit une pétition... que j'ai relu en disant il faut faire une enquête parlementaire sur Clearstream. Parce qu'on retrouve Clearstream aussi bien chez SwissLeaks que chez... Donc dans SwissLeaks, on a HSBC. HSBC a des, je ne sais plus, 197 comptes chez Clearstream, dont beaucoup à Caïman, beaucoup à Jersey, etc. Et dans LuxLeaks, les multinationales ont de nombreux comptes sous leur nom, en passant par Clearstream. Enfin bref, on retrouve Clearstream, c'est comme une sorte de matrice. Et je fais pas de fixation là-dessus, je peux le prouver.
Non, mais tu as raison.
Mais je me suis dit, j'ai pas envie de la faire cette pétition parce que c'est un peu ça va, les gens vont pas comprendre, etc. Mais ce qui est très intéressant. Et qui est absolument sous-traité médiatiquement, c'est que le seul moyen d'avancer sur ces questions-là, c'est une enquête parlementaire européenne. Ouais, ouais, ouais. C'est la seule qui peut avoir des moyens coercitifs, qui peut organiser des perquisitions, qui peut obliger les États à rendre des documents, etc. Et là, il y a eu un phénomène très intéressant avec LuxLeaks très récemment. J'étais en Belgique là, pour la sortie du film. J'ai croisé des eurodéputés, dont un que je trouve formidable, qui s'appelle Philippe Lamberts, qui est un écolo belge. Alors les écolos français, belges, etc., ont voulu avoir une mission d'enquête parlementaire sur LuxLeaks. Qui est quand même, LuxLeaks en deux mots, c'est quand même le pillage organisé des États par des multinationales qui ne payent pas d'impôts, alors que nous, on est rincés. Ouais, ouais. Et là, la logique voudrait. Alors, ils ont réuni avec difficulté 196 europarlementaires, dont une majorité de gens de gauche, mais quelques-uns à droite aussi, beaucoup d'écolos. Les écolos étaient très en pointe sur ce combat-là. Et donc, ils devaient avoir cette mission d'enquête européenne. Et à ce moment-là, en l'espace d'une semaine, il va se jouer quelque chose dans les back-office du Parlement. Et les types vont transformer la commission d'enquête en mission spéciale d'information. Ouais, c'est-à-dire qu'ils ont enlevé les... Donc, et là, il y a la compromission totale des socialistes français et d'autres. Donc ils sont arrivés à une sorte de compromis complètement foireux. Mais à mes yeux, c'est d'une gravité extrême. Et il m'a semblé revivre... ce que j'avais vécu 10 ans plus tôt, en 2002, on avait exactement le même cas de figure. On avait, à l'initiative à l'époque d'Harlem Désir, de travaillistes anglais, de verts, de finlandais, je sais, ils avaient le quota du nombre de députés. Il devait y avoir une commission d'enquête. Et le commissaire européen, qui était Bolkenstein, qui était moins connu, qui après il a été tristement connu, il a dit non, le Luxembourg est un État souverain, c'est à lui de régler ce problème, il n'y aura pas de commission d'enquête sur Clearstream. Ce que je veux dire par là, c'est que quand on touche à ce nœud de pouvoir, parce qu'à mes yeux, je veux bien hiérarchiser, enfin, mais le pouvoir est aux banquiers quand même. Et là, on voit la force des lobbies. Et comment ils ont réussi à retourner cette situation 10 ans après, encore une fois, j'avoue que ça me laisse pantois de voir la compromission des politiques, et en particulier des eurodéputés socialistes français, qui soient à ce point peu conscient de la violence et de la force de cette histoire, ça me désespère.
On parle de lobbying quand même très très poussé au Parlement européen.
Oui, mais c'est, si vous voulez, pourquoi l'inquiétude qu'on a tous, hein, que je peut-être vous partager, c'est de voir, quand on voyage comme on le fait, enfin, de voir la montée des populismes partout en Europe, et de voir aussi des souverainistes qui gagnent du terrain en France, à droite comme à gauche d'ailleurs. Et moi, qui connais un peu le crime financier, qui voit un peu le fonctionnement de la finance, je suis très opposé à toute idée de souverainisme, parce que je sais que le souverainisme est une idée complètement stupide, qui en apparence peut être... On se dit, oui, c'est vrai, on doit se replier derrière nos frontières, on sera... etc. Mais c'est le meilleur moyen de faire gagner le crime organisé, parce que les criminels organisés, c'est-à-dire que ce soit les mafieux ou même pas, aujourd'hui, la mafia est partout. Enfin, quand je dis partout, c'est-à-dire que c'est Guy Debord qui a expliqué ça, et même les mafieux, aujourd'hui, c'est des ingénieurs financiers qui blanchissent de l'argent, qui investissent partout, etc. Donc, pour lutter contre ça, il faut pas de frontières, il faut un espace judiciaire européen avec des moyens, avec des possibilités de remonter des itinéraires financiers, etc. Donc il faut plus d'Europe, il faut un espace judiciaire européen, mais il faut pas une Europe des banquiers, il faut une Europe de la justice. Et là, de voir que ces types qu'on a élus se compromettent à ça, après qu'ils viennent pas s'étonner contre le Front National, parce qu'il y a un rapport direct entre les scores du Front National et ces trucs-là.
Ce genre de recul-là.
Tu as plus ou moins répondu à la question, mais c'est vrai que ça pose des questions sur le journalisme aussi, l'investigation. Est-ce que le journaliste Denis Robert je pense qu'il y a encore un espoir aujourd'hui qu'il y ait des règles fermes qui puissent se mettre en place, quelque chose qui calmerait un peu les ardeurs des bandits de la finance internationale, enfin de la mafia.
Non, mais quand je vois, tout à l'heure, on vannait sur les drones, mais il devrait y avoir des unes de journaux sur ce scandale du Parlement européen. Il devrait y avoir une ouverture de journal de 20 heures plutôt que nous les briser avec ces drones à la con, là, dont on n'a rien à foutre. Mais quand on voit le temps perdu à parler de ça, c'est insupportable, quoi. Et donc, après, les mêmes journalistes qui parlent des drones vont s'étonner du fait que le Front National fasse dans le Doubs presque 50%. Il y a un rapport de cause à effet, quoi. Et ne pas le voir, c'est un peu désespérant, quoi.
Ouais. Et pourtant, c'est pas faute d'avoir tout fait pour alerter. Dans ton cas, t'as...
Non, mais c'est pour ça que cette pétition... Là, je suis en train de réfléchir à un texte. Je suis en train de réfléchir. Il faut que je l'écrive. J'ai pas pris le temps. Autour de ces questions. À quoi ça sert de lancer un appel en plus? Ou alors, si on lance un appel, il faut vraiment que ce soit un appel très fort, quoi, qui puisse impacter au-delà de la France, évidemment. Donc, je suis en train d'y réfléchir avec différentes personnes. De lancer un... Mais je ne suis pas un homme politique, moi, je suis écrivain, je suis autre chose qu'un homme politique.
Alors, j'ai une question conne.
Mais qui est en lien.
qui est un peu en lien, ouais. C'est... En gros, est-ce que tu penses que si les dirigeants des principales puissances économiques se mettaient autour d'une table et décidaient d'encadrer violemment la finance, par exemple, en interdisant les produits financiers complexes, en ne permettant qu'une cotation des titres des entreprises, qui était le but initial des marchés, en interdisant le high frequency trading, on a beaucoup parlé sur Reflet, est-ce que ça pourrait marcher? Ou est-ce que c'est trop tard?
Non, c'est jamais trop tard, mais ils le feront pas.
Voilà, parce que ce que tu disais tout à l'heure sur les commissions parlementaires.
Je veux dire, vous savez, quand François Hollande a fait son discours du Bourget,
oui.
il avait un boulevard devant lui, puisque
c'était beau. J'ai cru, j'avais les larmes aux yeux.
En plus, je lui ai fait des notes, moi, une semaine avant le discours, et le discours, je l'ai eu en main, j'ai vu son évolution. D'ailleurs, au début, dans le premier discours, il nommait les banques, était beaucoup plus précis, puis après, il a commencé à se renier les dents, et il s'est attaqué une sorte d'abstraction qui est devenue la finance.
Et dès
cet instant, c'est-à-dire, c'est marrant, parce que je me suis dit, tiens, le discours, il avait la tonalité, etc., mais il avait pas les mots, quoi. Les mots ont été gommés, les vrais mots, etc. Et donc, parce qu'il n'avait pas envie de mentir non plus. Et en fait, on peut dire qu'il n'a rien fait, parce que les banques des dépôts,
les banques d'affaires, il n'y a pas eu
la lutte contre les paradis fiscaux, c'est faire reculer le problème, parce qu'on a
les Bermudes sont revenus, il n'y a pas très longtemps.
Caïman, ça se passe. Voilà. Singapour est une place aujourd'hui florissante. La Suisse, il se passe quelque chose en Suisse, mais sur pression américaine. Les Américains y arrivent beaucoup mieux. Obama, enfin, mais en application, même si, alors, après, si on s'intéresse aux États-Unis, il y a le Delaware qui est quand même un paradis fiscal, qui reste, voilà, les États-Unis s'arrangent avec tout ça, mais ils font une pression très forte. Ouais. On l'a vu avec UBS, on le voit là avec HSBC, le gouvernement Falciani, donc le lanceur d'alerte, le ramène clé en main, une histoire incroyable, quoi. Mais c'est pas grâce aux politiques. Non. Les politiques sont mis devant le fait accompli, quoi.
Oui, mais. Enfin, je veux dire, c'est qu'une question de volonté. On sent bien qu'ils ne veulent pas y aller. Enfin, on l'a vu avec la crise financière qui a secoué l'Europe. Enfin, à chaque fois qu'ils pourraient se mettre autour d'une table et décider, c'est quand même eux qui font la loi.
Donc, c'est quand même normalement. Et ça énerve beaucoup les gens.
Normalement,
quand on parlait des extrêmes, etc., ça énerve beaucoup les gens de voir que ils savent. Prétendent vouloir faire quelque chose, et à chaque fois ils ne font pas, donc tout le monde se dit effectivement ces gens-là sont achetés. Enfin, c'est ce qui revient. Obligatoirement, le populisme, il est là. Hein.
C'est de la faiblesse, c'est de la. Je sais pas. J'ai une anecdote là, quand j'ai une des premières émissions que j'ai faites pour c'est l'émission de Canal, là, le supplément, j'étais invité en même temps que Michel Sapin, qui était ministre de l'économie. Personnage sympathique, je m'assois, je lui serre la main. Première question de l'animatrice. Alors, Monsieur Sapin, Clearstream. Et lui, il avait un démo qui était tout préparé. Enfin, il avait une argumentation. Il sort. Oui, mais Monsieur Robert, vous pouvez pas comparer Clearstream. Clearstream, c'est un peu comme la Poste. Ils sont pas responsables de leurs clients, etc. Le mec avait déjà été briefé. Sur le fait que Clearstream n'était pas responsable du blanchiment de
l'utilisation. Ils n'ont rien eu, au final.
C'était les clients. Il avait des éléments de langage. Mmh. Et j'avoue que j'étais pris de court. J'aurais dû lui dire stop. Parce qu'il a bien vu que je n'étais pas d'accord. Mais tout de suite, il a embrayé sur le versant politique. Ce que je trouve intéressant dans cette anecdote, c'est de voir que le ministre, on lui a fait des fiches. Et dès qu'il arrive à l'émission, il a déjà cette idée que... qui est l'idée véhiculée par Clearstream et véhiculée par le Canard Enchaîné cette semaine, qui sont des éléments de langage de Clearstream, mais qui sont complètement faux. C'est-à-dire que toute mon enquête démontre le contraire. C'est-à-dire que Clearstream est évidemment responsable de la dissimulation, puis ils sont responsables des clients, c'est eux qui les choisissent, etc. Et j'en veux pour preuve qu'ils ont été condamnés en janvier 2014. Vos auditeurs pourront aller sur Google, ils tapent Clearstream Iran, et ils verront. Le Trésor américain a fait plier Clearstream, qui avait Et grâce d'ailleurs à Révélation, c'est en lisant Révélation que les enquêteurs américains, en voyant les noms des banques, etc., ont vu le truc, qu'il y avait des comptes iraniens chez Clearstream. Et donc, les Marines américains ayant été bousillés, enfin, il y a eu 130 morts là-bas, ils ont interdit à toute société qui travaille aux États-Unis de dealer avec des intérêts iraniens. Mmh. Et Clearstream a payé 152 millions de dollars. C'est bien la preuve qu'ils sont responsables de leurs clients, et que Sapin dit une connerie et que le Canard Enchaîné dit le Canard Enchaîné, c'est vraiment incroyable qu'ils aient fait ce papier-là, quoi. Mmh. Mais bon.
Mais ça veut dire quand même qu'il y a des choses qui changent un peu parce qu'effectivement, les gens sont un peu mieux informés. On sent qu'il y a quand même, entre autres, par exemple, avec les bouquins que tu as sortis, mais là, avec le film qui remet en avant l'histoire Clearstream, les mécanismes financiers sont un peu mieux compris. Et peut-être que les politiques vont être obligés de bouger, mais par rapport justement à cette information qui circule et cette compréhension de la part des populations, on peut rêver quand même là-dessus.
J'aimerais bien, je devais aller présenter le film à l'Élysée, j'attends toujours l'invitation. C'est-à-dire qu'il y a une sorte de frilosité. Je n'arrive pas à comprendre comment François Hollande, même s'il remonte un peu dans les sondages, il est quand même très très bas, quel risque qu'il a à se battre comme un chien sur cette question. Il n'a aucun risque. Politiquement, il peut être que gagnant. Pourquoi il ne le fait pas? Ça reste mystérieux.
On va donner d'ailleurs envie aux auditeurs d'aller voir l'enquête. On va passer
de lire la BD, surtout.
Et de lire la BD, l'affaire des affaires.
Vous l'avez lu, Antoine?
Au niveau sonore, c'est moins évident, une BD. Donc, il y a la bande-annonce de l'enquête, en tout cas, qu'on passe pour les auditeurs de Reflet, Radio Reflet.
Vous êtes bien Denis Robert?
Vous êtes bien Denis Robert?
Oui.
Commissaire Julien.
Commissaire Martin.
Nous sommes venus vous interroger et effectuer une perquisition.
Si j'avais su qu'en me lançant dans cette enquête, j'irais me foutre dans une telle merde. Que j'aurais sur le dos une multinationale, des banques, des avocats, des juges, des huissiers, des policiers.
Vous avez déjà entendu parler de Clearstream?
Que je me retrouverais au cœur des guerres fratricides entre les deux principaux marchands d'armes français. Et de deux candidats à l'élection présidentielle. Franchement, je crois que j'y serais pas allé.
J'ai rencontré un type.
T'as raconté quoi?
Histoire du système de dissimulation de capitaux à l'échelle internationale.
J'ai eu 4 appels raccrochés aujourd'hui, je sais pas ce qui se passe là.
Vous avez quitté Clearstream il y a 10 ans, monsieur. Ils vous font peur à ce point-là? Je viens de lire le Figaro, qu'est-ce que c'est que cette histoire de corbeau là?
Vous voulez vous attaquer à trop gros.
T'as fait tout ça pour rien, mon amour.
Denis, comment on survit à une pression comme celle qui a été celle de Clearstream, des copains journalistes, etc. Alors tu fais des peintures, tu écris des romans, mais est-ce que ça suffit pour s'extraire de tout ça? Est-ce que le prix à payer pour une telle révélation, est-ce que ça en valait la peine?
Bien sûr, ça en valait la peine et ça en vaut la peine, sinon je ne serais pas là d'ailleurs. La peinture, c'est pas du tout. La peinture, c'est autre chose. C'est pas pour m'extraire, au contraire. La peinture, c'est pour continuer le combat. C'est assez étrange, cette histoire de peinture. D'abord, j'ai toujours été. Ça a toujours été mon univers. J'ai beaucoup d'amis artistes et tout. Et donc, Clearstream a été un détonateur, puisqu'un de mes livres a été interdit à la vente. Et j'ai trouvé dans une galerie d'art qui est
lequel
Clearstream l'enquête. D'accord. C'est parce que j'ai décrypté tout le mécanisme de la manipulation. Villepin a été Premier ministre.
C'est la deuxième affaire.
Ils ont interdit. Et le fait qu'ils interdisent mon livre à la vente et que je me retrouve comme ça en France, dans un silence face à cette censure, ça m'a beaucoup travaillé. Et Après, quand on se retrouve derrière un clavier, on n'écrit plus de la même manière. Et donc, dans une galerie, j'ai trouvé une manière de faire de l'art un média. Et c'est dur à expliquer, mais mon histoire devenait quasi artistique, quoi, tellement elle était incroyable. Et donc, j'ai commencé à imprimer sur des toiles des listings, je les ai taguées, et puis petit à petit, j'ai inventé un langage sur des murs, et puis des collectionneurs ont commencé à acheter ça, des gens qui ne savaient pas qui j'étais. Ça, c'est important de le dire. Ils n'ont pas acheté parce qu'ils étaient connus, c'est parce que les toiles leur ont parlé. Donc, ça m'a. Et pour moi, j'y passe beaucoup de temps. Il y a une galerie à Paris qui est la galerie W, qui est Métro Blanche 44.
Mais en fait, tu as transcendé un peu.
Voilà,
c'est un peu ça.
Et c'est devenu. Mais ça m'a aidé à tenir, sûrement. En tout cas, à tenir, à avancer. Parce que tenir, ce n'est pas tellement le but. Le but, c'est d'avancer, d'essayer de se renouveler tout le temps et de trouver. Là, c'était une vocation. J'étais mis en examen pour vol et recette de vol. Paf, je prends le produit du recel, je le mets, je le vends. En plus, je recycle puisque les mecs qui me l'achètent, c'est des banquiers. Enfin, etc. C'était assez amusant. Mais sinon, j'ai aussi tenu, enfin, gagné la partie parce que autour de moi, il y a eu un mouvement. Il y a mes amis de Nancy, le Fred Touron, Rémi Malingré, Patrick Perrin, mes amis parisiens. Il y a des gens comme Pierre Jolivet, comme Guy Bedos, comme le chanteur Kali, comme Miossec, comme on organisait des concerts, des viticulteurs, on fait des bouteilles de vin, et il y a eu des t-shirts de vendus, il y a eu un mouvement, il y a eu des pétitions quand j'étais mis en examen, il y a eu des... La Domination du Monde, qui était mon blog, qui existe toujours d'ailleurs, 1 million de visiteurs, c'était pas mal quand même, en l'espace de 3 ans, enfin vous voyez, c'est bien. Et puis tout ça a généré de l'argent et un mouvement comme un cordon de sécurité autour de moi. J'ai pas été aidé par les politiques, ou en tout cas très peu dans ces années-là, j'ai été aidé par mes copains, et puis par ces milliers, et ces dizaines de milliers d'anonymes qui ont mis entre 5 et 3 000 euros. Et à la fin, on a gagné. Il y a eu cet argent-là à payer mes procès, mes plaintes, mes amendes. À partir de 2008-2009, j'ai pu dépenser un centime. Et à la fin du combat, quand je gagne à la cour de casse, on a fait un chèque de 800 euros pour les Restos du Cœur. Donc vous voyez, c'était pas. Mais sans cet argent-là, sans doute. Ça m'a rendu plus léger dans ce combat-là, et ça m'a porté aussi. C'est-à-dire, je me suis dit, je ne peux pas les lâcher, on va aller en cassation contre l'avis de Clearstream, parce qu'il faut se rappeler qu'en 2009, Clearstream achète une page de publicité dans Le Monde pour dire, on propose à Robert qu'il ne paye pas ses amendes, en contrepartie, on lui demande de retirer ses pourvois. C'est vachement intéressant, parce que d'une part, que Le Monde ait accepté de publier cette page de pub est une ignominie totale, mais ce n'est pas étonnant de la part de ce journal, et d'autre part, on voit que Clearstream était d'une arrogance formidable, puisque à ce moment-là, je suis mis en examen et tout. Les mecs achètent une page de pub dans Le Monde pour me proposer ce marché faustien, on va dire, puisque c'était pactisé avec le diable. Et parallèlement, nos avocats négociaient. Moi, j'étais pas contre arrêter les hostilités, mais pas à n'importe quel prix, pas n'importe comment. Mais eux, ça les inquiétait beaucoup, ce pourvoi en cassation. Et je comprends que ça les inquiète, puisque je finis par gagner la partie, puisque la Cour de cassation va dire le 3 février 2011, enquête sérieuse de bonne foi servant l'intérêt général. Au-delà de cette sentence, ce qui est très intéressant, c'est de voir qu'aujourd'hui, je suis là avec vous, j'ai une liberté de parole. Je peux accuser Clearstream de tous les maux que vous savez, je ne vais pas y revenir. Ils peuvent même pas bouger une oreille. C'est ça qui est formidable. Mais le paradoxe, c'est qu'ils continuent à faire du business, ils continuent à faire tout ça. Mais moi, j'ai une grande liberté.
Mais c'est quand même une victoire.
Et je sais que je les emmerde. Et je les emmerde. Voilà. C'est-à-dire que. Mais je vais pas passer ma vie à me. Voilà, je suis un peu, comment dire, j'en tire aucune. Aucun plaisir particulier, mais c'est comme ça. Et je sais qu'eux, ils peuvent. Il y a des articles contre moi dans le Canard Enchaîné. D'ailleurs, c'est très marrant que le Canard Enchaîné ait fait ça cette semaine. Il y a que la presse luxembourgeoise qui se réveille, qui écrit. Mais il y a un journal qui s'appelle le Luxemburger Wort, qui a fait 2 pages sur moi. De la première à la dernière ligne, c'est un tissu de conneries. C'est que des mensonges, c'est que de la communication de Clearstream. Ça faisait longtemps que je n'avais pas lu autant de bêtises dans un article. Il y a le Canard Enchaîné. Même combat que c'est marrant, enfin c'est marrant, c'est tragique pour le Canard Enchaîné, qui est quand même une institution, mais voilà, c'est-à-dire que j'aurais accepté leur deal, aujourd'hui je devrais faire profit bas, je devrais pas en parler, etc. Là j'en parle, les gens sont plus acculturés, il y aura peut-être 500 000 personnes qui auront vu le film, puis après il va passer à la télé, il y aura le DVD, tous les gens vont, petit à petit tout ça va agglomérer du monde et ça va peut-être faire bouger les choses.
Non, il y a quand même plein de notes positives et une forme de victoire à la fin. On va te libérer.
Merci de votre invitation.
Denis Robert,
Bernard. C'était très plaisant de parler avec vous.
Et merci beaucoup d'être venu.
Merci d'être venu. Oui.
Ouais, merci beaucoup. On va écouter un petit peu de musique avant de continuer quand même, puisqu'on a encore l'interview imaginaire et d'autres petites gâteries. Merci Denis Robert. Au revoir.
Au revoir.
C'était Crossing Your Heart de Domenico.
Waouh, l'accent.
Mais oui. Et tout de suite, l'instant magique de l'interview imaginaire.
L'interview imaginaire.
Eh bien, bonjour Emmanuel Matron.
Bonjour Crafeur.
Drafeur, mais c'est pas grave. Alors, tu es content camarade? Cette loi avec ses 200 articles, c'est ton œuvre? Ça y est, c'est passé, hein? Pas trop déçu que personne n'ait pu la voter au final?
Pas du tout, c'est la démocratie. J'entends ici et là des crypto-communistes dire que l'on a confisqué le débat démocratique à l'Assemblée, mais pas du tout, monsieur. Premier point, le 49.3 est dans la Constitution. Deuxième point, c'est l'expression de la volonté du gouvernement. Et, je vous le rappelle, hein, monsieur Troffer, le gouvernement, c'est l'émanation même du suffrage universel au travers de l'élection triomphale d'un président de gauche. Alors, j'ai pas raison? Vous avez déjà vu, monsieur Paffer, des banquiers de mon niveau qui n'ont pas raison?
Drafer. pas trop fur, ni gopher, ni pas fur, mais bon, c'est pas grave, on n'est plus à ça près. Oui, mais Emmanuel, camarade Emmanuel, ton chef, Hollande, il parlait de déni de démocratie en 2006, quand la droite utilisait le 49-3. C'est quand même curieux, non ? Un reniement de plus, c'est difficile à contester, ça, quand même.
Écoutez, monsieur Empaffer, vous détournez les choses, laissez-moi vous recadrer, et ce, sans même une once de 49-3.
Oui, vas-y, recadre-moi, camarade.
Nous voulons retrouver la croissance, et sachez-le, il n'y a pas d'alternative à la réforme. La réforme, c'est sortir des carcans du passé, revenir à plus de liberté, plus d'autorégulation. Voyez-vous, les secteurs de l'économie comme la finance, l'industrie, ce sont des gens responsables qui veulent que la bonne santé de l'économie profite à tout le monde. Ce sont des gens adultes, responsables, je le répète. Ils sont assez grands pour s'autoréguler. Et en plus, en les laissant faire, l'État peut concentrer son activité sur des choses plus importantes, plus bénéfiques pour le plus grand nombre.
Ouais, il faut juste réformer, j'oubliais. Mais pourquoi la réforme bancaire, justement, qui devait séparer les banques d'affaires et de dépôts, n'a rien donné ? Enfin, si 2%... En gros, des filiales bancaires sont concernées en France par la réforme. Donc, la spéculation est toujours mélangée aux avoirs des déposants. Ça aurait été bien quand même de réformer vraiment pour empêcher les banques de continuer à faire n'importe quoi, non ?
Et voilà, encore un discours de journaliste rouge-brun. Vous pensez vraiment que les banques font n'importe quoi ? Mais enfin, monsieur, tout à faire. Comment vous financez votre achat immobilier ? Comment achetez-vous à crédit votre dernier écran plat ? Qui finance ? Hein ? Qui ? Les banques, monsieur. Et les banques, c'est le secteur le plus encadré. Vous savez-vous qu'un banquier humaniste ne peut même pas acheter une machine à café pour ses salariés sans l'accord de la Banque de France ? Elle risque de se faire traîner devant les tribunaux pour évasion fiscale parce que le siège de la boîte est en Suisse ?
Oh là là, on se calme, Emmanuel. Je parlais juste de faire ce que les Américains ont déjà fait avec le Glass-Steagall Act. Mais bon, c'est aussi un type de gauche qui les a abolis, Clinton.
Mais bon. nous ne sommes pas des Américains. Nous voulons protéger l'exception française, comme pour la production cinématographique. C'est ça la gauche, monsieur Grofer.
La gauche.
Comment croyez-vous que monsieur Robert peut travailler sur un film avec un gros budget racontant une histoire totalement fantasmatique ? L'exception française, c'est l'exception française.
Ok, camarade Matron. Pour résumer, tu es socialiste, de gauche, et tu appliques la politique de la droite libérale en prétendant faire du social, c'est ça ?
Non. Nous faisons une politique de droite. C'est la politique d'avenir. Nous avons intégré le meilleur des deux. Tout ce qui permet de désengager l'État des tâches ingrates qui ne profitent pas au plus grand nombre. Nous voulons émanciper le peuple, lui redonner espoir. Et il est avec nous, derrière nous même, je dirais. Un peu loin derrière, c'est sûr, mais il est derrière. C'est l'essentiel d'ailleurs qu'il soit derrière.
Ah voilà, donc la politique de droite, c'est l'inverse de la politique de droite ou de groache de Nicolas Sarkozy. Bon, bah en fait, on a tout compris. Merci Emmanuel Matron. Bonne continuation. Et surtout, reste sur tes gardes, parce qu'à force, il y en a qui risquent de... Bref, salut camarade.
Merci à vous. Nous finirons par réformer ce pays, quoi qu'il vous en coûte. Quoi qu'il nous en coûte.
Eh ben, je crois que c'est l'heure de la chronique de politique. Ah, on a un petit morceau de musique avant, oui, qui est sympa. Alors, en fait, le morceau s'appelle, offert par Radio Reflet, évidemment, toujours en Creative Commons, et ça s'appelle The Dada Weaverman. Non, c'est eux qui jouent, en fait. On écoute. I got a love that's just whole. That's how I keep on going now. You got a scar that opens back up when you're on your own. Back your chains. If you ever feel you're feeling
sold your soul. And so
you got filled up.
I've been in a jumble dump all over the room.
You got filled up.
Free to just let things go down the drain.
You got filled
up. If you ever feel like you're gonna fuck it,
you got filled
up. Just say fuck it and just go do it.
Cet excellent morceau des Dada Weaverman s'appelait Fuck It.
Et maintenant, c'est l'heure de la chronique de Politique en Toc avec Draffer qui s'y est collé cette fois. Alors, tu as titré cette chronique « Le travail, c'est la santé et ne rien faire, c'est la gaspiller ». C'est ça, Draffer ?
Absolument. Le travail, c'est la santé et ne rien faire, c'est la gaspiller. D'où le fait qu'il faut travailler le dimanche. Mais la nuit aussi, parce que les touristes chinois, les touristes du Golfe Persique, ils n'ont pas que ça à faire. Et que trouver des portes closes à 23h ou bien dimanche, quand vous avez envie de vous acheter une Rolex ou un foulard Christian Dior, c'est quand même très frustrant. Très frustrant.
Oui, mais ça crée des emplois. Et puis, les gens gagnent plus quand ils travaillent le dimanche. Le pouvoir d'achat, tout ça.
Mais bien entendu, et qu'y a-t-il de plus satisfaisant que de se farcir des clients à l'appel le dimanche au lieu de passer du temps avec sa famille? Rien, absolument rien. Le travail est une sorte de médicament moderne pour le salarié, surtout quand il est source de profit pour des multinationales, celle du bricolage par exemple. Les emplois, on ne sait pas vraiment combien il va s'en créer avec ce travail du dimanche, mais quelle importance de toute manière. Le but est de travailler, toujours travailler. Les salaires, ils vont passer de misérables à un peu moins misérables pour ceux qui ont la santé, la niaque, ce qui est vraiment bien. D'ailleurs, avec ce système du travailler plus pour gagner plus, c'est qu'au lieu de demander une élévation de tous les salaires, on fait juste jouer une saine concurrence entre les salariés. Ceux qui ont la santé peuvent plus travailler, les autres qui restent avec leur SMIC. Enfin, c'est bien, c'est équitable et très social.
Mais les gens sont contents d'aller faire des courses le dimanche parce qu'ils n'ont pas pu en faire les autres jours.
Ah ben oui, mais oui, quoi de plus délicieux que d'aller flâner dans un hangar de métal éclairé par des néons blafards un dimanche quand il fait beau dehors avec les petits oiseaux pépis. Rien, il faut dire, c'est irremplaçable la sensation des courses du dimanche. D'ailleurs, une étude récente démontre que ceux qui poussent des caddies le dimanche vivent plus vieux que les autres.
Ah oui ?
Non, je déconne.
Donc ne rien faire est malsain.
Ah ouais, totalement. Tous hyperactifs, tous au boulot, 24-24, surtout quand 3,5 millions de personnes ne peuvent pas du tout travailler. C'est important de laisser ceux qui ont déjà un taf aller s'enfermer le dimanche au lieu de profiter de la vie. C'est le but de cette société d'ailleurs, et le programme du gouvernement socialiste est donc très clair. C'est à la fois beau et motivant. Travailler tous les jours, le plus possible, pour une santé économique de plus en plus grande, ça donne envie, non? Mais Hollande nous avait prévenu, le changement, c'est maintenant.
Et nous voilà rendus à la fin de cette émission. Merci de nous avoir écoutés.
Bah oui, c'est une émission qui se termine. Merci infiniment à l'invité qui est parti, Denis Robert, mais qui vraiment, enfin, moi j'ai beaucoup apprécié son témoignage et sa façon de nous faire vivre cette histoire très difficile mais très importante. Donc on se retrouve le mois prochain, normalement. toujours pour cette émission spéciale Adopi et Culture. Vous en avez parlé le mois dernier. Il se peut qu'il y ait des surprises de taille, d'ailleurs, sur les invités. Le lieu où elle se déroulera aussi, on ne sait pas encore. Peut-être que ça ne sera pas dans nos studios secrets, le QG secret de Radio Reflet. Hein, quittez-toi. QG secret. Et merci donc à Epimae, évidemment, à la console, à la technique et à la programmation musicale. Merci à tous ceux qui soutiennent Reflet financièrement, parce que ça devient du rail. Et c'est important pour que nous continuations. Salut, quittez-toi.
Salut Drafeur.
Bye bye et surtout, ne lâchez rien.
Donc Cosmos est une société qui a une spécialité que nous appelons Network Intelligence, c'est-à-dire qu'en fait on extrait l'information du réseau IP pour alimenter les applications.
Des individus se revendiquant membres d'Anonymous ont accordé des interviews aux médias, faisant croire au public qu'ils étaient susceptibles de donner de la voix à notre collectif. Ils s'arrogent le droit moral et physique de parler au nom d'Anonymous, alors qu'ils ne connaissent même pas, en général, le fonctionnement, les détails techniques, l'histoire, ainsi que les principes fondateurs du mouvement. Des individus se revendiquant membres d'Anonymous ont accordé des interviews aux médias, faisant croire au public qu'ils étaient susceptibles de donner de la voix à notre collectif. Ils s'arrogent le droit moral et physique de parler au nom d'Anonymous, alors qu'ils ne connaissent même pas, en général, le fonctionnement, les détails techniques, l'histoire, ainsi que les principes fondateurs du mouvement.
Des individus.